17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, bonjour, merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial en compagnie de Dominique Sopo, président des SOS Racisme. Merci Dominique d'être présent.
Merci.
Dans cette actualité hyper brûlante où c'est pas facile de dégager du temps. Et en compagnie aussi de Loïc Lawson, qui nous fait le plaisir de passage à Paris. Il vit au Togo, Loïc Lawson, qui est patron d'un journal, Le Flambeau, qui marche très très bien dans tout le Togo. Et donc, on vous a attrapé au passage, et vous allez nous dire un petit peu comment vous ressentez à la fois l'actualité française et internationale. Merci d'être là.
C'est un plaisir, Ketan.
Dominique Sopo, j'ai eu l'impression qu'on vous invitait moins sur les plateaux en ce moment, depuis qu'il y a le conflit en Israël. Je me trompe ou c'est la réalité ?
De façon générale, vous savez, les antiracistes ne sont pas beaucoup invités sur les plateaux de télévision ou de radio depuis maintenant, malheureusement, de nombreuses années. Donc je pense que c'est une problématique plus générale qui n'est pas simplement liée au conflit entre Israël et la Palestine.
On connaît vos attachements aux droits de l'homme, à la liberté de conscience, à la lutte contre l'arbitraire, et à dénoncer les exactions, etc. Et peut-être qu'on n'avait pas trop aussi envie de vous entendre, parce que on a l'impression que dans le conflit du Proche-Orient, dans la guerre israélo-palestinienne, il y a un deux poids deux mesures. On a vu la réaction de l'Europe, de l'Occident par rapport à l'Ukraine, par rapport à l'Arménie. Et on a l'impression que sur la Palestine et sur Israël, l'Occident, les États-Unis sont timorés pour être polis, pour pas dire plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce soutien aveugle, inconditionnel à Israël qui est en train de faire un nettoyage ethnique de Gaza et de la Cisjordanie ?
Alors, je pense que d'abord, il y a une situation dans laquelle les États-Unis, notamment sous l'impulsion de Trump, mais c'était quelque chose qui avait déjà commencé avec George Bush, ont cessé d'avoir un rôle de médiation qui avait quand même permis, notamment il y a 30 ans, la signature des accords d'Oslo, qui aujourd'hui semble quelque chose de quasiment irréel, mais qui à l'époque, je le rappelle souvent parce que beaucoup de gens qui n'ont pas vécu cette époque ou qui n'avaient pas de conscience politique à cette époque ne s'en souviennent pas, mais ça avait soulevé un espoir absolument incroyable, non seulement dans la région, mais également dans le monde. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un soutien inconditionnel, parce qu'il faut quand même voir par ailleurs que Joe Biden, dans ses derniers jours, a remis sur le devant de la scène la nécessité de la création d'un État palestinien. Et je pense qu'un des drames que nous vivons, c'est que, et d'ailleurs en cela Netanyahou a une responsabilité très forte, c'est que Netanyahou a réussi à faire croire, c'est ce que disait l'écrivain Grossman, grand écrivain israélien, il dit quand même un des plus grands tours de force de Netanyahou, c'est d'avoir fait oublier qu'il y avait ce conflit. Or, évidemment, ce conflit, il est toujours latent, il est toujours là, et un terreau favorable a été créé pour le Hamas, qui a son idéologie propre, parce que souvent on dit tout ça, de la faute de Netanyahou. Le Hamas était là avant Netanyahou, c'est une idéologie...
Il a été élu démocratiquement, qui a
en tout cas le plus grand talent pour faire des coalitions à géométrie variable et à se maintenir au pouvoir coûte que coûte pour éviter un procès et sans doute la prison. Mais le Hamas a son idéologie propre et le Hamas fait quand même partie de ceux qui ont fait dérailler le processus d'Oslo par toute une série d'attentats après 93. Et d'ailleurs Arafat à l'époque n'hésitait pas à les qualifier de terroristes. Donc il y a une idéologie de toute façon de l'éradication de l'autre chez le Hamas. Mais si le Hamas peut aujourd'hui se présenter avec autant de force comme une prétendue force de résistance, c'est aussi parce que il y a une impasse politique dans le refus, notamment de Netanyahou et des différents gouvernements qu'il a dirigés, d'aller vers la création d'un État palestinien qui est la seule solution durable pour les peuples dans la région et pour les deux peuples, israéliens et palestiniens.
Alors justement, on a l'impression quand même qu'on avance à reculons, parce que aujourd'hui il y a 700 000 colons en Cisjordanie, alors qu'il n'y en avait pas il y a quelques années. Jérusalem-Est où il y a près d'une quinzaine d'années, il y avait 700 000 Palestiniens, il n'en reste plus que 250 000, qui n'ont ni de passeport israélien, ni de passeport palestinien. Ce sont des résidents de Jérusalem-Est. Et aujourd'hui, il semble que la colonisation se développe vraiment très très rapidement. Et les Occidentaux, Emmanuel Macron ou d'autres d'ailleurs, appellent à l'arrêt de la colonisation et non pas au démantèlement des colonies. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense que de toute façon, dans la colonisation,
bien sûr,
il y a une logique.
La région est devenue un confetti.
Oui,
on va le construire où ? Mahmoud Abbas a été marginalisé, discriminé, minorisé, méprisé. Mahmoud Abbas ne représente plus que lui-même. Il n'a pratiquement plus d'autorité. Alors que le Fatah est un espace démocratique. On oublie que dans le Fatah, il y a des juifs, il y a des Palestiniens juifs, musulmans, chrétiens, athées. On oublie souvent que les Palestiniens sont de grands démocrates. D'ailleurs, c'est ce qui fait peur aux pays arabes.
Oui, alors, comment on va faire ? Alors, si quelqu'un a la réponse de comment on peut faire aujourd'hui pour créer un État palestinien, eh bien, il faudrait l'inviter. Je ne suis pas sûr d'avoir, moi, la réponse, d'autant plus que, de toute façon, l'édification d'une solution durable passe directement par une discussion avec les acteurs de ce conflit. Ce qui est sûr, c'est que le développement de la colonisation ces dernières années en Cisjordanie a été fait non pas comme les débuts de la colonisation où là il y avait plutôt des enjeux de dégager Jérusalem de la frontière avec la Cisjordanie en se disant puisque on veut en faire notre capitale, il faut pas que ce soit sur une frontière. Et donc là il y avait quelque chose d'assez stratégique. Mais ces dernières années, et maintenant depuis de nombreuses années, la colonisation qui se développe en Cisjordanie, c'est effectivement une logique de mitage du territoire qui rend de plus en plus complexe justement l'édification d'un État palestinien. Ceci étant, lorsqu'il y a des problèmes, il y a sans doute des solutions. Et je suis sûr, en tout cas, que si les gens se mettent autour de la table, ils trouveront des solutions pour qu'il y ait un État palestinien qui puisse émerger. Ce qui manque le plus dans la région, c'est le fait d'avoir des interlocuteurs qui ont un projet politique pour avancer vers cette solution. On voit bien qu'il y a un refus du côté de Netanyahou. Je rappelle d'ailleurs que dans le gouvernement Netanyahou, il y a, je parlais du Hamas qui avait contribué à faire dérailler le processus de paix d'Oslo par des attentats dans les années 90, mais dans le gouvernement israélien, il y a des gens comme Ben-Gvir qui sont aussi les héritiers de ceux qui ont perpétré des attentats, et notamment en assassinant Yitzhak Rabin. C'est le même courant politique. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation dans laquelle des deux côtés, ceux qui sont totalement ou en partie aux manettes sont ceux-là même qui ont fait dérailler le processus d'Oslo qui visait à faire en sorte que, eh bien, il y ait un partage de la terre, ce que les extrémistes dans les deux camps ont radicalement refusé jusqu'à tuer. Donc, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est une volonté politique, avec une difficulté aussi du côté palestinien objective. C'est qu'il y a une très forte division aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord parmi les différentes forces palestiniennes sur ce que doit être la solution, puisqu'on a d'un côté le Fatah, qui est l'organisation quand même historique à laquelle, qui nous parle le plus.
Mais est-ce qu'on a une solution avec
et
le
de
Nelson Mandela palestinien ? Aujourd'hui, on a le Nelson Mandela palestinien qui est en prison depuis 40 ans. C'est Marwan Barghouti qui fait l'unanimité, qui fait consensus. Aujourd'hui, si on veut sortir par le haut, Biden, le président américain et les Occidentaux peuvent très bien obliger Israël à faire sortir Marwan Barghouti, et Marwan Barghouti fait l'unanimité, et ça devient le président de la Palestine. Pourquoi ça se passe pas, ça ?
Sur Marwan Barghouti, je ne sais pas quel est son niveau de résonance avec les enjeux actuels, parce que c'est toujours compliqué de savoir, pour quelqu'un qui a été mis hors jeu quand même depuis autant d'années, quel est, son rapport à la situation actuelle, sa connaissance de la situation actuelle. Et les gens qui font l'unanimité parce qu'ils ne sont pas là, ne la font pas toujours une fois qu'ils arrivent.
Oui, on le sait bien aussi.
Oui, avec Nelson Mandela, pour le coup.
On l'a vu avec les prisonniers.
Tout à fait.
Les prisonniers FLN en Algérie.
Mais si c'est une solution, parce que d'ailleurs, cette solution du Marwan Barghouti qui va sortir de prison et qui serait la nouvelle génération de leaders palestiniens, c'est déjà, mais ça fait très longtemps qu'il est en prison, il faut dire, une idée qu'on entendait il y a 10 ans ou 15 ans où on disait mais c'est lui qui sera la solution.
Parce que vous parliez
peut-être. Et si ça l'est, Eh bien, évidemment, il faut le faire sortir, parce que la question qui est posée du côté palestinien, c'est bien la question du leadership. On voit bien que le Hamas n'est pas un partenaire de paix, puisque de toute façon, il est sur, lui aussi sur une solution d'éradication de la partie adverse, c'est sa façon de résoudre le conflit, et que ceux qui aujourd'hui porteraient l'acceptation d'un partage de la terre entre deux États, à savoir Mahmoud Abbas, sont des acteurs qui sont vieillissants, et comme vous le disiez, quand même très décrédibilisés par la marginalisation dans laquelle ils ont été placés.
Alors, vous parliez de partenaires, d'interlocuteurs à l'instant. Bien sûr, du côté israélien, c'est le gouvernement israélien. Mais comment considérer
pas celui-ci, à mon avis, mais pour le coup.
Comment considérer que c'est un interlocuteur valable dans la mesure où il n'a respecté aucune des résolutions de l'ONU depuis 48, notamment la 248. Israël ne respecte aucune des résolutions de l'ONU, et pour ne pas parler récemment des insultes que Netanyahou a proférées à l'encontre du secrétaire général de l'ONU en le traitant de tous les noms. Est-ce que Israël est au-dessus des lois ?
Non, Israël n'est pas au-dessus des lois. Je pense, ceci étant, qu'il y a quand même deux éléments à distinguer. Les gouvernements israéliens ont été, à un moment donné, dans un processus de paix avec les accords d'Oslo. Donc ça a existé des deux côtés. Il y a bien eu, à un moment donné, une volonté d'aboutir à un accord définitif. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que Netanyahou, pour moi, mais c'est une... On dire comme, enfin, je l'ai toujours dit, donc je... N'est pas un partenaire de paix. Netanyahou a passé sa vie politique à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Donc Netanyahou ne va pas changer, et de toute façon, tant que ce sera...
Comme d'autres, je veux dire, c'est...
Oui, d'autres aussi
étaient dans la tradition des dirigeants israéliens.
Pas de tous. Des gens comme Rabin ou Pérez sont bien des personnages qui, à un moment donné, voulaient aller vers la paix en signant les accords d'Oslo. Je pense que de toute façon, tant que ce sera Netanyahou à la tête de ce gouvernement, il n'y aura pas de dynamique politique du côté des institutions israéliennes. Donc il faut attendre, et j'espère que ça va arriver très rapidement, qu'il y ait un changement de toute façon de Premier ministre et de coalition gouvernementale.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Grand témoin, alors j'aurais aimé vous dire que le grand témoin d'aujourd'hui c'était la paix qui était invité, ou j'aurais bien voulu vous dire que c'est l'État palestinien qui était invité, mais bon, on n'en est pas encore, et en attendant, on est avec Dominique Sopo, président des SOS Racisme, et Loïc Lobson, patron du journal Le Flambeau, au Togo, à qui on va donner la parole dans un instant. Dominique Sopo, mondialement, il y a toujours eu cette espèce de mobilisation pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On l'a vu en Afrique du Sud, avec la lutte contre l'apartheid, et puis en soutenant l'ANC de Nelson Mandela, en Amérique du Sud, contre les dictatures en place, notamment grâce à la théologie de la libération que représentaient les forces chrétiennes. On l'a vu en Russie, en URSS, pour dénoncer les camps d'enfermement et de concentration. On l'a vu en Afrique, où un certain nombre de dictatures ont aussi été démantelées. Et on a l'impression que ce qui se passe en Palestine n'obéit pas à ce logiciel. Je veux dire qu'en Israël, c'est un pays où se perpétue l'apartheid. Vous avez des Palestiniens qui sont devenus des Arabes israéliens, puisque Haïfa, Jaffa, Ashkelon n'ont jamais été israéliens. Ça a toujours été palestinien. Aujourd'hui, ce sont des villes israéliennes qui ont été conquises par Israël. Et ces Arabes israéliens, sur leur passeport, c'est marqué d'abord qu'ils sont musulmans, mais ils n'ont pas accès à certains métiers comme aviateurs ou s'engager dans l'armée, ils ne peuvent pas acheter un appartement, ils ne peuvent pas acheter de la terre, ils ne peuvent pas rentrer dans des fonctions, dans des professions, publiques, comme par exemple le ministère des Finances, etc. Et ça se passe comme ça. C'est un apartheid qui ne dit pas son nom. Et de l'autre côté, on parle d'Israël comme une démocratie. Je ne vois pas où est la démocratie, puisque Israël est un État juif, c'est un État théocratique qui n'a pas de constitution, qui tire son fonctionnement des lois fondamentales de la Torah. Puisque moi, je suis allé dans la salle d'attente de la Cour suprême, qui aujourd'hui n'existe plus. Vous avez sur les murs les tapisseries des lois fondamentales. Et récemment, ils ont fait voter la loi sur la réforme de la justice qui donne le feu vert à la colonisation sauvage débridée. Donc, première question, pourquoi ce qui s'est passé pour l'Afrique du Sud ou d'autres pays n'est pas valable pour la Palestine et Israël? Et deuxièmement, pourquoi continuer à parler d'Israël comme une démocratie alors que ce n'est pas une démocratie?
Deux questions, parce qu'en fait, il faut faire attention aux comparaisons. D'abord, en Israël, tous les personnes qui vivent en Israël, en dehors de la situation particulière du statut de Jérusalem-Est, ce sont des citoyens israéliens. Il y a une citoyenneté israélienne pour toutes les personnes, quelle que soit leur religion et quelles que soient leurs origines. Il y a d'ailleurs même des
discriminations dans l'emploi et dans un certain nombre d'actes civils, comme d'acheter un appartement ou de la terre.
D'acheter un appartement, non, je ne crois pas qu'il y ait l'interdiction d'acheter d'appartement pour quiconque en Israël.
Les Arabes israéliens.
Non, les Arabes israéliens sont des citoyens comme les autres. Il y a eu pendant longtemps, parce qu'il y a eu, j'allais dire, notamment dans les suites de 48 et 49, une administration plutôt militaire de toute une série de villes arabes, on va dire, jusque notamment dans les années 60. Il y a encore aujourd'hui des difficultés qui sont rapportées par les Arabes israéliens lorsqu'ils veulent notamment étendre leurs villes ou étendre leurs habitations. Donc il y a des actes de discrimination qui peuvent exister, mais qui en général ne sont pas tellement fondés sur la loi, mais plutôt sur des logiques, j'allais dire, que l'on peut connaître aussi ici, hein, en matière de discrimination, des logiques de fait. Donc, on est quand même plutôt sur une démocratie. Ces gens votent, peuvent avoir
ont
le droit de vote.
Ou dans les
peuvent
pays
avoir,
arabes, votent.
Peuvent
les...
avoir. Oui, mais non,
le
mais
fait
par
de
rapport.
Voter, ne veut pas dire démocratie.
Non, mais quand on parle de l'Afrique du Sud, là, pour le coup, comment dire, il n'y avait pas de possibilité pour les Noirs d'avoir des représentants, comment dire, en fonction du poids qu'ils représentaient. Là-bas, un homme égale ou une femme égale une voix. Et il y a d'ailleurs régulièrement des députés arabes israéliens à la Knesset, et même récemment, des ministres, en tout cas un ministre dans la coalition gouvernementale précédente. Donc il y a, il faut distinguer, je pense, le fait que Israël est une démocratie. Pour autant, une démocratie peut très bien, et on le voit par rapport au territoire occupé, peut très bien très mal se comporter dans, le rapport à l'autre. Et que de toute façon, à partir du moment où on est sur maintenant 56 ans d'occupation ou de blocus pour Gaza, qui n'est plus occupé mais qui est mis sous blocus, de toute façon, il y a un problème d'effectivité des droits
qui sont sous ce régime. Un pays qui se réclame d'être théocratique, d'être, c'est l'État juif, c'est un État théocratique qui inspire son fonctionnement des lois fondamentales, et encore une fois, il n'a pas de constitution. Vous appelez ça une démocratie?
Alors, attention, il y a...
On vote dans des dictatures.
Attendez, ouais. Une seconde quand même. Ouais. Le fait qu'il y ait des références aux lois de la religion n'est pas propre aux juifs. Ici, tout ce qui va être le droit personnel, les mariages, etc., sont gérés par les religions de chacune des personnes. Par exemple, il n'y a pas de mariage civil. Hein. Si vous voulez vous marier, en Israël, soit vous vous mariez devant le rabbin, soit devant le prêtre, soit devant l'imam, parce que vous êtes géré par le droit personnel. Et que d'ailleurs, quand des personnes de religions différentes veulent se marier, en général, ils vont se marier à l'extérieur et font valider leur acte une fois qu'ils reviennent en Israël. Donc, on est sur une conception qui est celle-là, qui a été, malheureusement, cet équilibre a été modifié en 2018 par une loi qui a fait beaucoup jaser, qui est une loi qui renforce effectivement le caractère juif de l'État d'Israël et qui a entraîné une très forte opposition de la gauche israélienne, des Druzes et des Arabes israéliens. Et à l'époque, déjà des grandes manifestations et une forte opposition qui avait eu lieu, mais qui n'avait pas permis de faire échec à cette loi.
Loïc Lawson, merci d'être là. Vous êtes de passage à Paris, patron du journal Le Flambeau. Vous êtes au Togo, vous êtes togolais, et donc vous vivez de plein fouet la situation en Afrique, notamment les récentes prises de distance du Mali, du Burkina Faso et du Niger vis-à-vis de l'État français. Donc la France n'est plus en odeur de sainteté dans certains pays. Et comment vous, le regard africain sur cette situation, sur cette guerre israélo-palestinienne?
Et je vous remercie. Je remercie vos nombreux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Moi, je peux vous dire que du côté de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest francophone d'où je viens, et pour les Africains, c'est qu'aujourd'hui il y a un deux poids deux mesures du monde face à un drame qui se vit en Palestine. Parce qu'il y a quoi? Vous l'avez dit en début d'émission, on a vu comment l'Occident s'y est mis quand il s'agit de la guerre en Ukraine, avec la Russie, tout le tollé général contre la Russie. Mais, et à la grande surprise, les Africains s'étonnent que par rapport à Israël, les Occidentaux n'arrivent pas à prendre position. À la limite, ils ont pris position pour Israël. Et je peux vous assurer que du côté du Togo, le regard que moi personnellement et beaucoup d'intellectuels, des gens de la société civile, des journalistes, leur regard c'est quoi? C'est que, écoutez, il y a une injustice et qu'il faudra la réparer. Vous voyez un peu tout à l'heure, mon ami Pocho faisait allusion. Et vous avez fait allusion à Marwan Barghouti en parlant du Mandela palestinien. Et moi, là où je vais vous rejoindre là-dessus, c'est que vous voyez quand Mandela était en prison, effectivement, pendant toutes ces années, et l'État sud-africain était. Les Noirs, on leur déniait cette appartenance à l'époque. Il a fallu que Mandela sort de prison pour que tout se remet en place. Moi, je pense que Marwan peut être une solution à cette crise qu'on vit aujourd'hui. Sa sortie de prison peut aider à faire changer beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai, on a un premier ministre israélien assez difficile, qui est assez rigide sur ses positions, qui ne veut pas bouger, mais tout compte fait, et toute guerre, même la guerre mondiale, a fini autour d'une table. Qu'on le veut ou non, cette guerre doit finir un jour, et elle doit finir autour d'une table de négociation. Mais en attendant, je fais partie de ceux qui personnellement pensent que l'État palestinien doit exister. On ne peut pas dénier à un peuple d'avoir sur son propre territoire d'exister. Et ce qui se passe, si tu veux mon avis par rapport au drame que vivent les Palestiniens, et je te dis, comme tout le monde, en tout cas comme la plupart des gens, que c'est injuste ce qui se passe. Ce peuple ne mérite pas ce qui lui arrive et que ce n'est pas normal et qu'il faut que l'Occident, Biden, surtout les États-Unis, puissent à faire raisonner nos amis israéliens, quelle que soit la complicité qu'il y a entre eux.
Dominique Sopo, avant que la déclaration Balfour permette à Théodore Herz et à tous les leaders israéliens d'installer Israël, on parlait de mettre Israël au Congo, en Afrique, au Zaïre. Est-ce qu'aujourd'hui on va mettre la Palestine au Congo, dans un pays
en
désert africain, et on va installer la Palestine en Afrique?
Je crois que c'était en Ouganda.
En Ouganda, pardon, pas
au Congo. Non, comment dire, vous savez, il y a cette pensée que l'on peut voir parfois et qu'on entend chez certains Israéliens extrémistes de dire, mais pourquoi ils vont pas ailleurs? Parce que s'ils se déplaçaient, de quel
Israël? Pour eux, la Palestine n'existe pas. C'est-à-dire que la Cisjordanie, ça devient Israël.
Gaza, ce qu'on appellerait
Israël. Les Palestiniens, la Palestine, c'est en Jordanie pour eux déjà.
Ce qu'on appellerait le grand Israël. Mais je tiens à faire remarquer que du côté d'extrémistes palestiniens, il y a aussi cette pensée que de toute façon, les Israéliens ne peuvent pas non plus exister sur ce territoire. Donc en fait, ce qui est, cette pensée qu'il faudrait que finalement, si on poussait les gens de quelques kilomètres, ça réglerait le problème, parce qu'il faut aussi voir, parce que dans la situation, les gens souvent ne se rendent pas compte qu'on est sur un tout petit territoire, on est vraiment sur un confetti. Hein. Quand on parle d'Israël-Palestine, c'est deux fois l'Île-de-France en superficie, et la moitié, c'est un désert, hein, c'est le désert du Negev. Donc ça veut dire que les terres vraiment habitables, c'est l'Île-de-France. Hein. Donc il faut bien voir que chaque mètre est un enjeu absolument phénoménal. Mais cette pensée que l'on pourrait pousser les gens de quelques kilomètres et que ça réglerait le problème, en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui ont un droit à la terre, les gens sont attachés à la terre. On a là deux peuples qui ont un attachement sincère chacun à la terre. Faut pas nier l'attachement des gens à cette terre. Les gens, ils sont pas là pour emmerder l'autre. Ils sont là parce qu'ils ont un attachement. Eh bien, cet attachement conjoint.
Il y a la mosquée Omar, il y a le Roc, il y a le temple
de
David, etc.
Oui,
etc.
Quand je dis la terre, c'est avec tout ce que cela peut représenter aussi en termes de lieu, d'histoire, etc. Et que donc, en fait, il y a deux peuples qui ont un attachement à cette terre. Eh bien, il faut trouver une solution négociée. On parlait d'être autour d'une table. Et que pour une solution négociée, ça ne se fait pas avec des bombes. Ça se fait en s'asseyant autour d'une table, en discutant et en faisant de toute façon, de part et d'autre, des concessions pour qu'à la fin, on ait un État d'Israël qui soit reconnu par tous et qui soit sécurisé, et un État palestinien qui soit enfin réel, qui soit viable et qui puisse permettre au peuple palestinien de prendre ses destinées en main.
On est totalement d'accord.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, toujours en compagnie de Dominique Sopo, président des SOS Racisme, et de Loïc Lawson, le patron du journal Le Flambeau au Togo, qui a la gentillesse de passer nous voir. Dominique Sopo, pour revenir un peu à l'Hexagone et faire le lien avec le conflit du Proche-Orient, est-ce qu'il est normal d'interdire les manifestations de soutien à la Palestine ? Ce sont des soutiens, des manifestations la plupart du temps bien encadrées, pacifiques. Vous comprenez, vous, cet acharnement du ministère de l'Intérieur à interdire les manifs de soutien à la Palestine ?
Ouais, écoutez, de toute façon, on s'est prononcé contre ces interdictions générales. S'il y a des manifestations dont les mots d'ordre sont des mots d'ordre qui risquent de créer des troubles à l'ordre public, notamment, puisqu'on a pu voir ça parfois, notamment dans les premiers jours, des références, on va dire, très bienveillantes vis-à-vis du Hamas, qui venaient quand même de perpétrer des actes non seulement terroristes, mais d'un degré de barbarie quand même qui rappelait davantage Daesh que Jean Moulin. Qu'il y ait des manifestations parce que les organisateurs ou les mots d'ordre risquent de créer des troubles à l'ordre public, que ces manifestations soient interdites, ça peut être totalement légitime, ça fait partie du cadre du droit. Ceci étant, il y a quand même une liberté de manifestation et on ne peut pas prendre de décision d'interdiction générale des manifestations. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Conseil d'État qui avait été saisi et qui est revenu sur cette décision initiale que Gérald Darmanin avait prise le 12 octobre. Les gens ont le droit de manifester leur soutien à la paix, leur soutien aux populations civiles à Gaza, le fait qu'il faut libérer les otages, etc., etc., etc. Les gens ont le droit d'avoir leur sensibilité, de manifester à partir du moment où cela se fait dans le cadre des lois de la République et dans le respect de l'ordre public.
Louis Sopo, est-ce qu'il faut être juif pour dénoncer la politique gouvernementale de Netanyahou ? Est-ce qu'il faut être juif pour faire de l'humour juif ? Est-ce qu'il faut être juif pour pouvoir protester ou dire... Je veux dire que souvent on dit critiquer le gouvernement israélien, c'est de l'antisémitisme, faire de l'humour où les juifs est central, c'est de l'antisémitisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette arme d'antisémitisme est une arme à double tranchant et qu'elle est employée souvent à des dessins un peu scabreux et honteux ?
Alors, l'antisémitisme est quand même une réalité. Hein. Nous, on a fait condamner des gens comme Dieudonné, qui, à travers différents sketchs, quand même, avait outrepassé très fortement les limites de l'acceptable. Donc l'antisémitisme est une réalité. Et il n'y a qu'à lire ce qu'écrit le journal d'extrême droite Rivarol ces derniers jours pour s'en convaincre. Donc l'antisémitisme n'est pas un fantasme. Il y a bien dans nos sociétés, et ça remonte à loin, on le sait bien, une passion anti-juive qui se réveille régulièrement. et par rapport à laquelle il faut être extrêmement précautionneux, puisque nous sommes quand même en France sur une terre sur laquelle il y a eu à un moment donné une haine telle que notre pays a participé.
C'est plus un mal européen occidental qu'un mal oriental ou musulman ou arabe.
Ah, historiquement, de toute façon, c'est un mal qui a beaucoup grandi en Europe, et la version moderne de cette passion anti-juif qu'est l'antisémitisme, qui a, on va dire, succédé à l'anti-judaïsme du Moyen-Âge, pour faire vite, eh bien quelque chose qui est né en Europe, même si dans le monde arabo-musulman, les gens ne sont pas prémunis contre des clichés anti-juifs ou contre des pensées anti-judaïques ou antisémites. Je veux dire, d'ailleurs, ce serait étrange que cela n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on voit le Hamas, on peut penser que le Hamas, au regard de son extrémisme religieux, a un problème avec les juifs, mais aussi avec les chrétiens, oui, et les chiites,
je pense,
et toute une série
un
de groupes.
Mais distance avec le Hamas. Le Hamas n'est pas le centre de la terre.
Non, mais
pour revenir au racisme et antisémitisme, en France, on l'a vu, c'est le droit de critiquer et de blasphémer. On l'a vu sur les caricatures du prophète, où c'est un droit institutionnel, et c'est normal. On peut blasphémer, on peut critiquer.
Religion,
sur la religion chrétienne, soit la pédophilie des prêtres, ou que ce soit un certain nombre d'exactions ont été mises en avant, pourquoi on n'aurait pas aussi le droit de critiquer la religion juive ? Et dès que vous êtes là-dedans, vous êtes antisémite.
Non, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a la critique des religions, qui là est évidemment totalement autorisée, et la religion juive fait aussi l'objet de caricatures, et le fait de frapper les gens parce qu'il serait, symboliquement ou physiquement d'ailleurs, mais ici on va dire symboliquement, parce qu'il serait de telle religion ou de tel groupe ethnique. Par exemple, on a le droit de critiquer l'islam, le christianisme et le judaïsme. Par contre, la haine envers les musulmans, les chrétiens ou les juifs, là, on tombe sous le coup de la loi. Et cette distinction, c'est une distinction qui est un peu fine, mais qu'il faut quand même avoir en tête. Est-ce qu'on a le droit de critiquer Netanyahou lorsque l'on n'est pas juif ? Bah oui, écoutez, moi, vous savez, tous les ans, je pars en Israël et en Palestine, puisqu'on fait des voyages de médiation interculturelle dans cette région du monde. En juillet dernier, j'ai profité d'être présent pour manifester à Jérusalem contre Netanyahou avec toute une série d'Israéliens, on va dire, qui manifestaient contre la réforme de la justice que Netanyahou essaye de faire passer. Ils étaient très heureux de voir des personnes non juives et même non israéliennes, pour le coup, être à leur côté. Donc bien sûr qu'on peut critiquer. On peut critiquer Netanyahou, c'est un responsable politique, on peut critiquer Biden, on peut critiquer Macron, on peut critiquer Netanyahou, c'est quelque chose qui est évidemment parfaitement normal dans, j'allais dire, dans un monde où règne la liberté d'expression.
Alors, pour faire la loi sur l'immigration en France va bientôt arriver, pour l'introduire, pour faire la liaison, on a l'impression quand même qu'il y a un amalgame. Récemment, la France a été victime dans sa chair d'un attentat terroriste, puisque un enseignant a été assassiné, et puis donc il y a la guerre au Proche-Orient entre Israël et la Palestine. On a l'impression que tout ça, il y a un amalgame, tout ça se mélange, et avec tout ça on est en train de fabriquer une loi sur l'immigration qui semblerait être, est conditionnée par cette actualité.
Oui, enfin, je rappelle que la loi immigration, d'abord, elle est bien antérieure au conflit au Proche-Orient et à l'assassinat. Le projet de loi est bien antérieur et au conflit au Proche-Orient et à l'assassinat de Dominique Bernard, qui m'émeut d'autant plus que je suis moi-même enseignant de profession. Et qu'après l'assassinat de Samuel Paty, quand on est enseignant, on se dit quand même que c'est un peu étrange de se dire qu'on peut être tué, ou qu'en tout cas que des collègues peuvent être tués parce qu'ils font leur métier de transmission auprès de la jeunesse. Donc ce projet de loi est un serpent de mer. Ça fait des mois et des mois que Gérald Darmanin veut son projet de loi immigration, comme Sarkozy l'avait eu en son temps. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça chez lui de « il faut que j'ai mon projet de loi immigration pour apparaître comme quelqu'un de ferme, de dur et de gagner l'électorat de droite dans mon ambition présidentielle ». Et donc, nous avons ce projet de loi qui va arriver dans un contexte où Gérald Darmanin surfe effectivement, notamment sur l'assassinat de Dominique Bernard, pour justifier les mesures qui sont contenues au sein de ce projet de loi, mesures qui n'auraient en rien d'ailleurs empêché l'assassinat de cet enseignant. Et ce projet de loi est très inquiétant parce qu'il remet quand même en cause potentiellement beaucoup de droits, de procédures, de traditions républicaines, en s'attaquant potentiellement à l'aide médicale d'État, puisque la droite sénatoriale va essayer de remettre en cause l'aide médicale d'État, et Gérald Darmanin ne semble pas y être défavorable à cette remise en cause, en facilitant les procédures d'éloignement, en retirant des protections envers toute une série de populations qui aujourd'hui, fort heureusement, ne sont pas expulsables du territoire, et en faisant en sorte de rendre plus compliqué l'acquisition de titres de séjour et la nationalité française par naturalisation.
En multipliant les camps de rétention et en rendant plus difficiles les regroupements familiaux.
Oui, et autre élément qui n'a pas été beaucoup vu, et vendredi j'ai d'ailleurs écrit aux sénateurs et aux sénatrices pour m'en émouvoir, le fait qu'il y a une remise en cause très très grave du droit du sol, bien pire que ce que l'on avait connu sous les lois Pasqua-Debray, puisque dorénavant, et il faut le dire, il faut le savoir, dans le projet de loi qui va être étudié à partir de demain, il y a une disposition qui explique que les enfants nés de parents étrangers sur le territoire national, pour devenir français, devront le demander entre leurs 16 ans et leurs 18 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous devenez majeur, vous êtes automatiquement français. Et vous pouvez même le demander avant, à partir de 13 ans. Si vous ne le demandez pas, si vous ne manifestez pas votre volonté, eh bien vous ne serez pas français et vous allez vous retrouver étranger. Voici ce que prévoit ce projet de loi et nous avons interpellé et le gouvernement et les sénateurs sur ce point très scandaleux.
Je voudrais que vous réagissiez sur deux choses. La première, c'est sur ce que propose une partie de la droite, notamment Édouard Philippe, de remettre en cause les accords de 68 entre l'Algérie et la France. Et apparemment, il y a des coups de boutoir qui sont donnés, notamment par Dominique Retailleau, des Républicains. Pour vous, si ces accords étaient remis en question, ça voudrait dire un recul du droit en France.
Alors, les accords de 68 sont des accords qui font que pendant très longtemps, les personnes venues d'Algérie, on va dire, avaient un régime plus favorable que les personnes venues d'autres pays. Ça n'est plus toujours le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu des évolutions de la législation et que parfois les dispositions de 68 sont en deçà des dispositions qui s'appliquent dorénavant à d'autres étrangers. Ceci étant, dans la logique de Retailleau notamment, il s'agit de regarder là où ça reste plus favorable pour le retirer. Évidemment, ça peut poser un problème diplomatique, mais surtout, j'allais dire, au-delà des problèmes diplomatiques que ça peut poser, on est vraiment dans l'utilisation du racisme, parce qu'en fait, on voit bien que ce qui est visé ici, c'est toujours cette question d'une forme de revanche sur l'histoire et de revanche sur le fait qu'on a perdu la guerre d'Algérie.
La guerre d'Algérie n'est pas terminée.
À un moment donné, ça fait quand même 60 ans, il serait peut-être temps que M. Retailleau et d'autres personnages arrêtent de remuer les plaies du passé et essayent de construire l'avenir. Ce serait peut-être bien mieux pour notre pays.
Il nous reste une minute. Et sur cette histoire de métier en tension, on dit que ça serait la porte ouverte, ça serait un signal pour une immigration débridée.
C'est complètement faux. La France, d'abord, a besoin de main-d'œuvre. Donc, cette question des métiers en tension n'est pas spécialement humaniste. C'est une réalité économique.
C'est le patronat, le bâtiment, la restauration. pour la France, l'agriculture, bon, etc.
Et que, de toute façon, si vraiment on veut intégrer des gens, il faut les laisser travailler normalement. Et que ça n'est pas vrai, contrairement à ce qui est dit, que ça créerait un appel d'air. Cet appel d'air n'existe pas. Il n'y a pas d'appel d'air. C'est faux. Ce qui fait que des gens viennent dans un pays, c'est la langue, c'est le fait qu'il existe des diasporas, c'est leur connaissance de l'état du marché du travail et certainement pas la facilité à être régularisé. Donc il faut arrêter avec ces fantasmes-là.
Dans quelques jours, le sommet pour la paix à Paris, qui va avoir lieu. Loïc Lawson, un mot pour terminer, peut-être, en perspective de ce sommet et par rapport à l'actualité.
Non, très rapidement. Oui, très rapidement, par rapport au sommet, moi je dis qu'il sera le bienvenu, le sommet sur la paix. Et c'est déjà une bonne initiative et je crois qu'on sera là. Maintenant, je souhaiterais que peut-être la prochaine fois qu'on fasse une émission justement sur, quand vous avez ouvert la brèche par rapport à l'immigration, une bonne émission sur l'immigration et surtout sur les relations aujourd'hui entre la France et les pays africains.
Dominique Sopo.
Qui est très conflictuel actuellement.
Je suis tout à fait d'accord, ça mériterait une émission, même plusieurs émissions.
Oui.
Et la paix, une denrée de plus en plus nécessaire et urgente. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mon invitation.
Merci pour l'invitation.
À très bientôt dans Les Grands Témoins. Et on reste, bien sûr, sur la brèche,
bien sûr,
sur l'actualité. Merci Loïc, merci Dominique.
Merci pour le plaisir.
Merci.
Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.